Chapitre 13. Un matin de l'hiver suivant, Alain reçut une lettre de sa grand-mère, l'informant qu'Elsa sollicitait l'autorisation de travailler dès maintenant pour gagner sa vie. « Elle veut chercher un poste d'institutrice, » ajoutait la vieille dame. « Je la trouve bien jeune encore, et surtout de physionomie un peu trop originale. Qu'en penses-tu, mon cher enfant? Donne-moi ton avis. Elle déclare que sa dignité s'oppose à ce qu'elle vive plus longtemps à notre charge. » Ce sentiment est fort bien de sa part, et ne m'étonne pas étant donné sa délicatesse habituelle. Je lui ai déclaré naturellement que nous la considérions comme l'une des nôtres, et qu'elle ne se fasse pas de scrupules à ce sujet, mais elle a beaucoup insisté. J'attends donc ton avis pour me décider. » Alain répondit le lendemain. « Le désir de cette jeune fille est tout à son honneur, comme vous le dites, grand-mère. Néanmoins, il est certain que 19 ans, c'est un peu jeune, quoique Elsa paraisse plus que cet âge. Voici donc mon avis, qu'elle attende un an encore, et puis nous verrons l'hiver prochain. » Ce fut la décision qui prévalut. Elsa déclara qu'elle avait toute confiance dans le jugement de monsieur de Pinvalas. En réalité, elle était beaucoup trop adroite pour s'élever contre l'avis du jeune homme, bien qu'il retardât l'exécution de son plan. À la fin d'août, Alain arriva à Runesto avec un congé de 15 jours seulement. 2 lieutenants étaient malades dans son régiment, un autre allait se marier. Enfin, peut-être, un peu plus tard, obtiendrait-il 1 ou 2 semaines encore. Le jeune homme eut une vive déception en ne rencontrant pas Florita au château. Son oncle, quelques jours auparavant, était venu la chercher en automobile pour l'emmener à Biarritz, où se trouvait sa tante, malade, et qui désirait la voir près d'elle. « Alors je ne la verrai pas cette année, ma fleurette? Si j'avais eu seulement une permission un peu longue, je serais partie 4 ou 5 jours plus tôt pour aller l'embrasser là-bas. » Elsa, qui se tenait cette fois près de la marquise, au seuil du château, pour accueillir le voyageur, baissa un peu les paupières sur ses prunelles où s'allumait un éclair de colère. Et ses lèvres se serrèrent nerveusement, un peu plus tard, en entendant Alain s'informer de Florita près de sa grand-mère et de sa sœur. Toujours charmante, cette petite Florita, toujours simple et naturelle comme un vrai petit enfant, toujours, et vive et ardente, et si bonne, si délicate, on ne peut rêver créature plus attachante et plus ensorcelante. » Une vive lueur traversa le regard d'Alain, tandis qu'il disait, avec un sourire nuancé d'émotion, « Oui, c'est une petite enchanteresse, une enfant délicieuse. » Le jeune officier, dès le lendemain de son arrivée, commença des promenades dans ses alentours familiers, chers entre tous, en les entrecoupant de visites à quelques châtelains du voisinage. Armelle l'accompagnait avec son fiancé, monsieur de Marcy, officier d'artillerie, fils d'un de ses voisins. Mais Elsa était rarement invitée à se joindre à eux. Elle ne voyait guère Alain qu'au repas, et le soir, quand tous se trouvaient réunis dans la bibliothèque ou l'un des salons. À ce moment-là, monsieur de Pinvalas demandait généralement de la musique. La jeune fille se mettait au piano et jouait les morceaux préférés du châtelain. Elle avait un beau talent, et en particulier interprétait à la perfection des transcriptions de Wagner que Madame Mulbar lui avait envoyées comme étrenne cette année-là. Parfois, Alain prenait son violon, et il parcourait alors le cycle des œuvres classiques dont était fort amateur le jeune homme. Elsa trouvait toujours moyen de glisser quelques discrètes flatteries à l'adresse de son partenaire, et puis il y avait ce regard passionné, brûlant, presque adorateur. Alain pensait, avec une impatience mêlée d'une satisfaction d'amour-propre dont il n'avait pas conscience, « Bon, encore une à décourager poliment. Elle est tout de même quelque peu effrontée, cette Elsa, pour me laisser voir ainsi les sentiments que je lui inspire. Ma grand-mère qui l'a dit si sérieuse. Dans sa position, surtout ici, elle devrait garder un peu plus de réserve. » Néanmoins, comme la passion d'Elsa flattait chez lui ses fibres secrètes, de l'orgueil que possède à peu près tout être humain, il inclinait un peu, vers les derniers temps de son séjour, à rechercher la société de la jeune Suissesse, causeuse intelligente et agréable. Un matin, en descendant, il croisa dans le vestibule Elsa, qui revenait du jardin, les mains pleines de fleurs cueillies pour orner les jardinières. Elle était très en beauté, les yeux brillants, son teint laiteux animé d'une rougeur légère, un agréable sourire aux lèvres. « Vous voilà parti en promenade, monsieur, sur mer, probablement. »« En effet, j'ai donné hier mes instructions à Yves Gouez en cas de beau temps. L'air est délicieux ce matin, vous ferez une charmante excursion. Il demanda en souriant, « Voulez-vous en prendre votre part ? Je vous invite à m'accompagner sur la Marie-Antoinette. « Oh, vous êtes trop bon, mais je vous dérangerai. « Pas du tout, et puisque vous aimez les promenades en mer. « Oh, énormément. J'accepte donc tout simplement une minute pour déposer ces fleurs et je suis à vous. « Ne vous pressez pas, j'ai le temps. » Pendant qu'il attendait Elsa, M. de Pinvalas prit connaissance d'une lettre de Florita qu'il venait de trouver dans son courrier. La fillette, une fois de plus, en ces termes affectueux et charmants dont elle avait le secret, disait tout son chagrin d'être loin de Runesto, précisément pendant le moment où son cousin s'y trouvait. Puis elle donnait des nouvelles de Madame Mulbar. « Tante Pepita paraît aller un peu mieux depuis que je suis là. Elle dit que ma présence lui fait du bien. Ce qu'elle a au juste, je ne le sais trop. Elle ressent, paraît-il, la nuit surtout, des douleurs atroces dans les jambes. Les médecins qu'elle a consultés à Biarritz ne l'ont pas soulagée. Aussi ne veut-elle plus en voir, et se soigne-t-elle à son idée avec des tisanes. Peut-être après tout a-t-elle raison. » Comme Elsa revenait, Alain replia le feuillet, se réservant de finir cette lecture plus tard. Ils partirent tous deux se dirigeant vers la crique. Comme ils approchaient, ils virent un petit cotre qui s'éloignait de l'embarcadère que M. de Pinvalas avait fait construire et dont il autorisait le locataire de Kerhéven à faire usage. Elsa fit observer. « Voilà M. Barwell qui profite comme nous de cette radieuse matinée. » « Oui, quelqu'un est avec lui, sans doute un de ses amis. En ce moment, il y a, paraît-il, quelques hôtes à Kerhéven. » Un instant plus tard, les deux jeunes gens s'embarquaient sur le Marie-Antoinette et la barque élégante s'éloignait, dirigée par Yves Gouez, assis au gouvernail. La brise de mer, toujours forte en ces parages, tempérait l'ardeur du soleil d'août. Des éclairs d'or jaillissaient de la houle lumineuse sur laquelle dansaient quelques barques à l'horizon, très clair ce matin. Une silhouette d'île se distinguait, longue et basse. Les deux jeunes gens échangeaient quelques mots à bâton rompu. Elsa, pensive, laissait pendre dans l'eau sa belle main blanche un peu forte. Elle avait un corsage blanc, dont l'échancrure du col et les manches transparentes laissaient voir un cou bien fait et de beaux bras, de la même teinte laiteuse que le visage. Le chapeau de paille gris-perle, une simple cloche décorée d'une aile noire, était posée de côté, découvrant ainsi une partie des beaux cheveux lustrés, des cheveux bleus, comme disaient les bonnes gens du pays. Cette chevelure de brune et ce teint de blonde ou de rousse constituaient le caractère singulier de la beauté d'Elsa, qui frappait toujours vivement quand on la voyait pour la première fois. Alain pensait « Oui, elle est très belle. Elle n'est pas du tout ordinaire, cette Elsa. » De temps à autre, en lui parlant, la jeune fille le regardait, et il revoyait dans ses prunelles la chaude admiration qui lui donnait un petit frémissement de plaisir. Le vieil Yves fronçait un peu ses sourcils en broussailles et glissait vers les jeunes gens des coups d'œil mécontents. Cette demoiselle Elsa ne lui avait jamais beaucoup plu. Est-ce que monsieur Alain s'imaginait de lui faire la cour? C'est qu'elle le regardait avec des yeux doux, la jeune personne. Pas étonnant d'ailleurs, car monsieur le marquis était bien fait pour que toutes les femmes fussent toquées de lui. Mais il ne faudrait tout de même pas qu'elle lui fît faire des bêtises, cette étrangère recueillie par la charité de la marquise. Or, par bêtise, le vieux marin entendait particulièrement le mariage du châtelain de Runesto avec une femme qui n'était pas de son rang, car Yves Gouez, sur ce chapitre, était autant et plus intransigeant que quiconque. 2 heures plus tard, la Marie-Antoinette accostait à l'embarcadère. Alain, quittant la barque le premier, tendit la main à Elsa. En posant le pied sur le petit ponton, la jeune fille heurta une poutre qui ressortait et faillit tomber. Alain étendit les bras pour la soutenir. Pendant quelques secondes, elle s'appuya contre lui, palpitante, émue, ses cheveux légèrement parfumés, frôlant le visage du jeune homme. Puis elle se redressa, rougissante, en murmurant « Oh, pardon, quelle maladroite je suis !» Leurs regards se rencontrèrent, celui d'Elsa, confus et amoureux, celui d'Alain, un peu troublé. Monsieur de Pinvalas détourna les yeux en disant « Il faudra que je fasse arranger cela. » Vraiment, c'est un peu dangereux. Ils n'échangèrent que de rares paroles jusqu'à Runesto. Une lueur de vive satisfaction brillait dans les prunelles d'Elsa. Elle était persuadée d'avoir fait aujourd'hui un grand pas vers la réalisation de ses désirs. En arrivant au château, les promeneurs virent dans la cour une fort belle automobile découverte. Alain s'informa près d'un domestique, debout au seuil d'une porte. « Qui est là, Joseph ? » « Monsieur de Ronchet, monsieur le marquis !» Alain s'exclama. « Maurice ! Oh, par exemple !» Elsa dit en riant. « Il vient donc se réconcilier avec madame de Pinvalas ?» Car il y avait brouille, depuis plusieurs années, entre la marquise et son petit-neveu, qui était en même temps son filleul. Maurice, fort paresseux, n'avait jamais fait que de piètres études. Son service militaire, une fois terminé, il refusa d'écouter les conseils de sa tante, qui cherchait à lui persuader de s'occuper utilement. Il y eut, à ce sujet, entre eux, plusieurs discussions. Puis, un jour, le jeune homme, cédant aux suggestions d'une femme dont il s'était entiché, prononça des paroles irrespectueuses qu'il refusa de rétracter, et Runesto, de ce fait, lui fut désormais fermé. Pendant un assez long temps, les Pinvalas n'entendirent plus parler de lui autrement que par des parents ou des amis communs. Car Alain, fort irrité contre son cousin que madame de Pinvalas avait entouré d'affection, ne conservait avec lui aucune relation. Puis un jour, il apprit que le mauvais génie de Maurice l'avait lâché. Un peu après, une de leurs cousines, agissant comme intermédiaire, parla de réconciliation. Mais Alain déclara « C'est à lui de faire les premiers pas, du moment où il s'agit de ma grand-mère, qu'il a si gravement offensée. » Depuis lors, 6 mois s'étaient écoulés. Le jeune comte de Ronchet n'avait plus donné signe de vie. Mais comme, au fond, il n'était pas un mauvais garçon et aimait sincèrement sa grand-tante, voilà qu'il se décidait malgré tout. Monsieur de Pinvalas le trouva dans le salon, assis près de la vieille dame qui, généreusement, avait déjà tout pardonné. Les deux cousins se donnèrent une franche accolade, et Alain dit gaiement « Eh bien, mon vieux, puisque malheureusement je dois partir après-demain, tu me remplaceras ici. » Maurice s'exclama « Suis-je bête de n'être pas venu 15 jours plus tôt? Comme cela, je ne profiterai pas de toi. Mais j'irai te voir à Reims, mon cher. Avec l'auto, ça ne compte pas, cette distance-là. » Madame de Pinvalas dit en souriant « Sais-tu ce que m'apprend Maurice? Désormais, il va s'occuper lui-même de sa propriété de Vanel. » « Oui, j'essaierai, du moins. » Alain considéra son cousin d'un air incrédule. « Sérieusement, hein? Mais oui, mais oui. » Comme Armel entrait à ce moment-là, monsieur de Ronchet ne parla pas davantage de ses projets relatifs à une occupation sérieuse, projet auquel Alain ne croyait guère. Le mieux, comme le dit un jour après le jeune homme à sa grand-mère, serait de l'engager à se marier le plus tôt possible, car sa nature faible, vaniteuse et indolente était susceptible de tomber encore sous une influence néfaste.